Bon matin tout le monde, bon matin! Bienvenue au podcast des millionnaires des diamants en ce mardi, dernier jour d'avril, donc le lundi et mardi. Donc Sylvain et moi, on couvre en fait le livre « Développer le leader en soi 2.0 » de John Maxwell, donc 10 compétences à développer pour être un meilleur leader, mais aussi être capable de reproduire des leaders dans nos équipes respectives, dans nos environnements de travail. On l'adapte principalement, en fait, pour les gens qui sont en MLM, comme Sylvain et moi. Donc, le chapitre dans lequel on est en ce moment, on parle de vision. Donc, comment est-ce que d'avoir une grande vision, c'est important pour un leader? Parce que c'est comme, dans la vision, il y a deux éléments, on va dire. Il y a voir grand. Donc, dans le but, en fait, de trouver les bonnes personnes qui vont nous aider à accomplir cette vision-là, mais il y a aussi être capable de voir avant les gens. Donc, de toujours avoir une ou deux étapes, une ou deux, en fait, de pieds d'avance, en fait, là, sur les gens que l'on lead, dans le but d'être capable de ajuster notre tir ou réajuster la direction dans laquelle on s'en va pour pas mener, en fait, une équipe complètement à sa perte ou dans un endroit où est-ce qu'on voudrait pas être. Donc, pour comprendre ce concept-là, donc de voir plus et de voir avant les gens, on a 5 éléments à couvrir. On en a déjà couvert 2 précédemment. Donc, on a parlé donc de être capable de trouver donc plus à l'extérieur, mais on a parlé aussi d'un processus. Donc, hier, le processus qu'on a couvert, on a parlé en fait donc de mettre au test notre vision, de voir en fait quels sont les échecs qu'on peut vivre, comment est-ce qu'on peut apprendre de ces échecs-là, comment est-ce qu'on peut s'améliorer et comment est-ce qu'on peut revenir en fait sur le terrain pour remettre au test notre vision. Donc, vous prendrez le temps en fait là d'aller voir ce processus-là qu'on a couvert hier en réécoutant les podcasts. Et une des choses qui est le fun, c'est que ce processus-là peut s'appliquer dans toutes les sphères de votre vie. Aujourd'hui, ce qu'on veut couvrir avec vous, on va couvrir les 3 derniers éléments, donc de comment est-ce qu'on peut s'assurer de développer cette vision-là, de voir plus et de voir avant les gens. Donc aujourd'hui, on va couvrir le point numéro 3, qui est de prendre du temps avec des gens qui nous inspirent à voir plus et à voir avant. Donc, passer du temps avec des gens qui vont être capables de nous influencer positivement à grandir. Passer du temps avec des gens qui vont, en fait, ce qu'on appelle « stretcher », donc étirer notre vision, OK? Donc, l'agrandir pour que finalement, on réalise qu'on est capable d'accomplir beaucoup plus. Donc, dans son livre, John Maxwell, il parle, en fait, d'un concept qui appelle, donc, « la chance acquise ». Donc, cette chance-là, c'est en réalité ce concept-là, c'est l'idée que les gens que l'on rencontre peuvent faire une grande différence dans notre vie. Donc, de comprendre que des fois, une personne, OK, peut complètement changer notre trajectoire. Mais comment est-ce qu'on fait pour rencontrer ces personnes-là? C'est ce qu'on veut couvrir avec vous aujourd'hui. Donc, Sylvain et moi, on va vous partager des expériences personnelles en fonction des concepts qu'on va couvrir dans ce point-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez découvrir si vous êtes intentionnel à vouloir rencontrer les bonnes personnes? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la vie, OK, c'est on est responsable. Je suis responsable de trouver des opportunités, de rencontrer des gens qui vont m'aider à changer ma trajectoire et je dois pas remettre ça dans les mains de la chance. Parce que si je remets ça dans les mains de la chance, malheureusement, ben c'est ce qui fait que des gens disent « moi, je suis jamais chanceux dans la vie ». Ouais, mais la chance, il faut la créer. Donc, comment est-ce qu'on fait et quels vont être les impacts sur votre vie et sur votre vision si vous décidez de prendre en charge les gens avec qui vous voulez connecter pour agrandir votre vision? Première chose, donc, quand vous allez être « with », mon Dieu, faut que je traduise en même temps quand je le lis, ça va bien. Quand vous allez être avec la bonne personne, au bon moment, au bon endroit, ce n'est pas du temps que vous passez avec eux, c'est du temps investi avec eux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le temps que vous passez, en réalité, vous allez avoir ce qu'on appelle un retour sur investissement, un ROI. OK? Donc, retour sur investissement. Donc, je donne un exemple. En 2019, j'avais demandé à Maria, donc, d'avoir une rencontre avec elle de 30 minutes par semaine, dans le but de pouvoir, tu sais, me développer, dans le but de pouvoir agrandir mon leadership, parce que je me sentais pris à une place. Je venais de lire aussi un livre de John Maxwell qui disait de s'évaluer, et l'endroit où est-ce que j'avais la plus grande faiblesse, c'était en fait sur mon développement du leadership. Il disait « Trouvez-vous un mentor ». Donc, je m'étais référé à Maria et qu'est-ce que je faisais? C'est que je passais 30 minutes avec elle par semaine à discuter de sujets sur le développement du leadership. Mais c'était pas, tu sais, un 30 minutes que je passais avec elle à l'écouter passivement. Non, au contraire, j'étais actif, j'étais investi avec elle parce que pour moi, c'était un investissement qui me permettait de... Quand j'arrivais dans des situations semblables dans le futur, bien parce que j'avais eu cette chance-là d'investir du temps avec Maria, j'étais capable de le mettre en action et de m'améliorer et de finalement pas reproduire le même résultat, mais d'avoir le résultat escompté pour grandir. Deuxième chose qui va arriver, OK? Donc, cette chance-là, OK, elle est 90% intentionnelle et 10% accidentelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, en réalité, vous pouvez pas juste espérer de rencontrer des gens qui vont agrandir votre vision. L'espoir, ici, OK, ou le fait d'espérer, ce n'est pas une stratégie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez être intentionnel pour aller à la rencontre de gens qui vont pouvoir vous aider à agrandir votre vision. Donc, je donne un exemple. Je me replace en 2015-2016. J'étais dans mes débuts encore à Tupperware. J'étais pas encore directeur. Et Sylvain, OK, j'avais encore jamais jasé, là. J'avais même pas dit un mot encore à Sylvain à cette époque-là. Mais moi, ou peut-être un ou deux, là, ou genre un salut dans le corridor, là, genre où, hey, toi, t'es la recrue d'Annie. Ça devait ressembler à ça, là, notre niveau de discussion, là. Fait que, moi, dans le fond, je voyais Sylvain, son nom était reconnu, il faisait partie des tops. En plus, un homme, tu sais, on n'était pas beaucoup à l'époque. On l'est pas encore beaucoup. Donc, moi, pour moi, il était un exemple. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis dit, moi, je veux aller le voir, Sylvain. Je veux comprendre comment il a fait pour développer sa business. Il gagnait quand même déjà plus de 100 000 $ à cette époque-là. Il était aux alentours là, de 150 000 $ déjà. Donc, j'ai demandé à ma directrice de l'époque, « Tu peux-tu me donner le numéro de téléphone à Sylvain? » Et là, je l'appelle et je dis, « Salut Sylvain! » Je ne sais pas si tu me connais vraiment, c'est moi, je suis une recrue, en fait, dans l'équipe de Annie. J'aimerais ça pouvoir venir t'observer en démonstration. J'ai pas attendu que la relation passe à plus qu'une discussion de corridor en espérant qu'un jour on puisse vraiment jaser. Non, j'ai entrepris et j'ai dit en fait j'aimerais ça venir pouvoir t'observer. Puis là Sylvain c'est là qui m'a dit hey là ma prochaine démo est à Mirabel, tu vas-tu vraiment venir? J'ai pas demandé était où, j'ai demandé était quand ta prochaine démo, puis je vais être là. Donc j'ai eu cette intention là, puis Sylvain a changé complètement ma trajectoire dans la manière de faire ma démonstration à l'époque à domicile, OK? Fait que tu sais c'est d'être intentionnel. Puis il y a des gens des fois qu'on rencontre comme ça, qu'on a la chance d'aller observer, puis c'est comme un accident de rencontre, de parcours, mais finalement on découvre que cette personne-là change notre trajectoire. Mais en général, faut être intentionnel puis prendre les devants. Troisième chose qui va arriver, OK, c'est impossible d'être autour de grandes personnes et de ne pas devenir grand à votre tour. Donc, ce qu'on comprend, c'est que naturellement, vous allez être influencé positivement si vous êtes intentionnel. Ça ne veut pas dire que vous allez tout comprendre du premier coup. Je donne un exemple, un SFL. On a eu il y a de cela deux semaines notre séminaire des futurs leaders, qui est une fin de semaine de formation du développement du leadership et de développement personnel, d'être une meilleure personne et d'apprendre à aussi s'autogérer, gérer nos émotions, gérer nos comportements. Ben, je me souviens encore, OK, que tu sais, ça fait 8 ans que j'assiste à des SFL, ça fait 8 ans que c'est toujours les mêmes concepts, OK, qui sont présentés, mais ils sont présentés différemment. Et un jour, il y a une manière de le dire qui m'a fait grandir. Donc, sachez que vous comprendrez pas nécessairement tout dès le départ, mais un jour, vous allez comprendre que ce qui vous a aidé à vous élever, c'est cet élément-là qu'un mentor, une personne vous a mentionné dans une formation, dans une conférence et qui vous a amené à passer au prochain niveau. Numéro 4, la meilleure manière de pouvoir rencontrer les bonnes personnes, c'est en posant la question suivante. Qui connais-tu que je devrais connaître? Et ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir du réseau et du réseautage. Ça tombe bien, OK? On est dans ce qu'on appelle le marketing de réseau, OK? Donc, moi, mon travail, c'est toujours de me dire comment est-ce que je peux rencontrer une personne et que cette personne-là peut m'ouvrir à son réseau, OK? Et qu'est-ce qui veut m'aider à me faire agrandir ma vision dans une notion comme ça? C'est que ça ne veut pas dire que c'est la première personne que je vais rencontrer qui va être ma future directrice, ma future étoile. Mais ça peut être, en fait, une personne qui est connectée à son réseau. Donc, c'est de comprendre l'arborescence. Puis quand on se mettait à analyser à l'époque, tu sais, on disait, hey, j'ai runné sur ce réseau-là pendant 10 mois. Ce réseau-là, en fait, m'a généré plus de 15 000 $ dans mon entreprise. C'est là qu'on comprend le pouvoir du réseau. Parce que c'est rarement les personnes dans notre environnement proximal, c'est-à-dire nos amis, familles, voisins, collègues, qui vont être les personnes qui vont nous faire passer au prochain niveau, mais c'est souvent une personne qui est connectée à leur réseau qui va nous aider à passer au prochain. Prochain élément, OK, c'est important la préparation avant, mais c'est aussi important la réflexion après. Donc, je reprends mon exemple avec Maria par rapport à ma vision. Donc, moi, j'étais préparé parce que la manière dont on fonctionnait, c'est que je lui apportais deux questions, une souvent avec une mise en situation, quelque chose que j'avais vécu cette semaine pour pouvoir m'améliorer, une autre que j'avais en lien avec le leadership sur ce que je voulais devenir, et le troisième élément, c'est Maria, en fait, qui me l'apportait. Donc, j'étais préparé avant d'arriver à notre rencontre, mais suite à la rencontre, j'avais un exercice, un travail à faire avant la prochaine rencontre, de voir qu'est-ce que j'allais mettre en application puis comment est-ce que ça allait se réappliquer dans une future situation. Donc, quand on veut agrandir notre vision et rencontrer les bonnes personnes, la préparation avant que la réflexion après est tout aussi importante parce que si je réfléchis pas, ben encore une fois, c'est que ça montre que j'étais pas nécessairement intentionnel. Numéro 6, pour pouvoir agrandir votre vision et la vision des gens en rencontrant les bonnes personnes, c'est d'amener votre équipe avec vous. Donc, on a cette chance-là, nous, de pouvoir dire aux gens de notre équipe, viens m'observer, va observer un directeur, va observer quelqu'un qui est en succès. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va agrandir leur vision. Tu veux implémenter quelque chose de nouveau dans ton entreprise, tu veux développer une nouvelle manière de faire. La meilleure manière de le faire, c'est un, toi tu le fais, tu deviens un exemple. Deuxième des choses, c'est que tu dis à ton monde de venir t'observer. Troisième des choses, c'est que tu le fais avec eux. Quatrième des choses, c'est que tu les laisses faire et que tu les observes. Et la dernière étape, c'est que tu les laisses faire par eux-mêmes. Donc, ce principe-là, donc, d'observation et d'entraînement, c'est une des meilleures manières de pouvoir agrandir leur vision parce que eux, ça leur permet, un, de faire un copier-coller sur ce que tu fais, ce qui les aide déjà à agrandir leur vision, mais qu'une fois qu'ils le mettent en application, c'est ce qui, eux, leur permet de continuer à travailler cette vision-là et un jour, à leur tour, devenir la personne qui va pouvoir former et coacher une autre personne. Et finalement, dernière chose qui va arriver en voulant rencontrer les bonnes personnes pour vous aider à voir plus et à voir avant, c'est que la deuxième rencontre est toujours la plus importante. Donc, le deuxième meeting que vous avez avec une personne est toujours la plus importante parce que ça l'indique que chacun d'entre vous, vous partagez des valeurs et que vous avez en fait une ambition et un désir d'amener la relation au prochain niveau. Donc ça, souvent, on le voit au niveau des business. C'est la première rencontre, c'est une évaluation, on regarde c'est quoi la dynamique. Puis finalement, il y a une deuxième rencontre. Donc là, c'est là que souvent le contrat va s'établir. Mais comment est-ce que ça peut s'appliquer pour nous, en fait, dans un MLM, dans une entreprise de marketing de réseau? Donc c'est lorsqu'une personne vient à deux reprises à un événement. Donc, nous autres, on disait souvent, lorsqu'on faisait des démonstrations à domicile et on avait notre bureau, donc nos événements d'invités et nos événements, on disait, lorsqu'une personne vient à deux événements puis qu'elle vient entendre le discours deux fois, qu'est-ce qui se passait? C'est que souvent là, le déclic se faisait. On l'invitait avant sa démo et on l'avait réinvité après sa démo. Et si on était capable de l'avoir à ces deux reprises-là, On savait que la deuxième fois, le discours allait être complètement différent pour la personne parce que là, elle venait de venir avant, faire sa démo, venir après. Donc, ça faisait trois fois qu'on la rencontrait, une deuxième fois dans un contexte identique, mais c'est souvent là qu'on était capable de vraiment lui dire, tu vas pouvoir aller faire les démos que j'ai datées chez toi, tu vas pouvoir développer ton entreprise toi aussi, puis c'est là que tu vas pouvoir voir la vision, OK, de où est-ce que cette entreprise-là peut te mener. Et c'est souvent là, en fait, que toi, en tant qu'être, tu dois être humble et avoir cette humilité-là de dire, OK, comment est-ce que je peux accompagner puis offrir à cette personne-là la même opportunité que moi, on m'a offert aussi à l'époque. Donc, ça, c'était mes exemples par rapport à ces éléments-là. Je vais passer la parole à Sylvain. Donc, Sylvain va pouvoir, lui, vous partager aussi dans ses différentes sphères de vie, enseignant, en tant qu'investisseur, entrepreneur, comment est-ce qu'il est fait pour trouver ces bonnes personnes-là et agrandir sa vision.
Oui, hey, donc j'adore le sujet en fait ce matin. Donc bref, quand on veut devenir quelqu'un, une autre personne en fait, puis on regarde, puis on dit « Oh my God, j'aimerais avoir ceci, j'aimerais ça être un enseignant comme ceci », ben il faut s'inspirer en fait, puis il faut aller vers les gens comme tu l'as si bien dit. Donc moi je me rappelle en tant qu'enseignant, donc on lit des livres et tout ça, donc de développement personnel aussi, développement professionnel en fait, et moi j'étais un enseignant de première année et il y avait un livre qui s'appelait « Lire et écrire en première année pour le reste de sa vie » en fait. Puis c'était un auteur qui s'appelle Yves Nadon. C'était vraiment inspirant ce qu'il faisait dans sa classe parce que lui il travaillait avec aucun manuel scolaire. Ce qu'il travaillait, c'était avec la littérature jeunesse. Donc, il y avait des livres en abondance, une variété de livres pour des variétés de lecteurs, des sujets vraiment différents pour plaire aux enfants, parce que c'est ça, t'sais, donc ça prend une variété. Et lui, il travaillait juste à partir de ça, puis là, il rencontrait individuellement les élèves. L'élève, il lisait un livre, il posait des questions, puis là, c'est là qu'il voyait ses difficultés. Puis là, il faisait après ça des sous-groupes, par exemple, pour dire, OK, ces élèves-là, ils ont de la difficulté, ben, par exemple, avec le décodage. Bon, ces enfants-là, ils lisent, mais ils se posent pas des questions. Ces enfants-là, ils réagissent pas au texte, par exemple. Donc, il faisait des groupes pour travailler, donc, les difficultés spécifiques. Moi, ça me parlait vraiment. Je me disais, my God, j'aimerais ça être un enseignant comme ceci. Donc, j'ai pris contact avec lui. J'ai dit, écoute, j'aimerais ça aller voir comment ça s'articule dans ta classe. Le gars, il enseignait à Sherbrooke. On a pris une journée de congé, on a conduit jusqu'à Sherbrooke, on est allé dans sa classe pour voir comment il faisait, parce que nous, je voulais l'implanter dans ma classe, en fait. Donc, ça a été quelque chose d'extraordinaire, donc de pouvoir le voir dans l'action. Le gars, il avait fait faire une mezzanine dans sa classe, donc il y avait comme un deuxième étage où les enfants allaient lire, là. Fait que, tu sais, il avait vraiment créé un environnement où le livre, puis le goût de lire, il était vraiment développé. Puis tu sais, moi, je me disais, dans nos bibliothèques scolaires, c'est tellement triste, là. Je veux dire, il y a des livres que... Les livres qui sont là, c'est des livres quand j'étais petit, là, tu sais, que je lisais ou presque, là, tout déchiré, tout ça. Comment tu veux développer le goût de lire aux élèves? Fait que c'est pour ça, moi, c'était d'investir, donc d'acheter des livres dans ma classe et tout ça. Tout mon budget de stagiaire, ça s'en allait là. Je faisais des ventes de garage pour trouver... Donc, fait que tu vois, mettre au cœur la littérature jeunesse dans ma salle de classe, fait que ça faisait dans le fond que cet homme-là m'a inspiré dans le fond à pouvoir être comme lui en fait, donc de pouvoir, mais bon, j'étais pas comme lui, mais j'essayais donc d'appliquer sa façon de faire en fait, donc dans ma salle de classe en fait. Fait que bref, c'est ça, quand on, tu sais, la distance est jamais assez grande, comme tu l'as montré Jean-Philippe, pour pouvoir apprendre, partir de Québec à la Mirabelle, je t'ai pas demandé c'était où, je t'ai dit c'était quand, OK? L'autre chose, quand j'ai commencé Tupperware, c'est sûr que je me suis regardé, c'était qui les meilleurs? Puis là, il y avait Annie Marchand. Donc, je me rappelle, au début, là, je pense que c'était comme la deuxième, troisième journée, Annie, elle avait un sondage. Puis j'ai dit, Annie, je vais aller avec toi, je vais voir c'est quoi. Je savais même pas c'était quoi faire un sondage, je savais même pas c'était quoi faire un party Tupperware, mais je me suis collé à Annie Marchand, en fait, pour apprendre comment faire. Ensuite, je suis allé la voir en présentation Tupperware. C'est sûr que Maria, c'est la même chose. Donc, on s'est collé. J'ai fait des trajets avec elle jusqu'à Québec, par exemple, pour pouvoir voir comment elle fonctionnait, en fait. Puis après ça, ben, j'étais capable d'appliquer les mêmes choses. Mais un des intérêts, en fait, donc avec Tupperware, qu'est-ce que ça a fait? Ça a agrandi ma vision. Puis là, après avoir lu un livre qui parlait d'investissement immobilier, j'ai dit, hey, moi aussi, je veux être un investisseur immobilier. Qui, dans mon cercle, est un investisseur immobilier? Mais il y avait Maria et Mohamed. Donc, là, je commence à poser des questions à Maria. Maria a dit, « Ah, ça, c'est pas vraiment mon département. Parle avec Mohamed. » Donc, après les meetings, j'allais m'asseoir dans le bureau de Mohamed, puis là, j'y posais des questions. Donc, comment il faisait? Même chose pour la gestion de l'argent, les dépenses dans une entreprise. C'est toutes des choses que je voulais apprendre comment faire, en fait. Et Mohamed, dans le fond, dans ce temps-là, il y avait l'immeuble à Rosemont. Mais là, il projetait de construire donc, ils ont acheté premièrement le terrain à Sainte-Agathe. Il y avait un vieil hôtel là-dessus. Ils l'ont gardé, je pense, pendant 2-3 ans avant qu'ils puissent le démolir. Là, ils ont fait faire des plans. Là, à un moment donné, c'était comme un, je sais pas, 24 logements. Là, finalement, la ville est revenue là-dessus. Elle a dit non, on ne peut pas faire ça. Là, à un moment donné, ils ont pensé faire une résidence de comme des appartements pour des personnes âgées avec une cuisine puis tout ça. Fait que j'ai vu toute l'évolution de ce projet-là, en fait. J'étais curieux, j'allais voir Mohamed, je posais des questions, des plans, tout ça, parce que j'aspirais à devenir une personne comme ça, en fait. Fait que je me collais à Mohamed pour pouvoir comprendre comment ça se faisait, en fait. Même chose, ensuite, j'ai lu un livre, puis là, j'étais insatisfait de mes placements, en fait, dans le sens que je payais trop cher, donc, pour des conseils qu'on n'a pas, en fait. Donc, si on va à une banque, par exemple, une fois par juste acheter l'horaire, tout ça, ben tu sais, on les paye très, très cher pour qu'en cadeau, ils nous donnent un stylo puis un pad de papier. OK? Tu comprends? Fait que j'étais très insatisfait. Et là, je voulais devenir un investisseur indépendant. Mais tu comprends la peur que moi, j'ai pas de formation, donc, dans ce domaine-là, j'ai pas de connaissances. Je faisais juste lire. Mais là, j'ai commencé à parler avec mon ami Jeff. Puis Jeff, lui, il est millionnaire, mais il l'a fait de ses propres mains, justement, en investissant, en étant lui-même un investisseur autonome. Alors, j'ai dit, moi aussi, c'est ce que je veux faire, en fait. Fait que bref, on s'est assis, j'ai posé des questions. Puis dans le fond, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait juste que je passe à l'acte. Tu sais, que j'achète mon premier rachat, là, tu sais, donc mon premier rachat d'action ou de fonds négociés en bourse. Puis, il dit, commence par investir une petite somme, tu sais. Fait que là, j'ai mis mon premier 500 $ puis là, j'avais la trouille. Mais là, j'ai regardé, puis j'ai dit, ah, finalement, c'est pas si pire, tu sais. Fait que je l'ai apprivoisé tranquillement. Et là, maintenant, donc, je peux dire que j'ai la force pour le faire. Je sens que je suis en contrôle. C'est moi que je suis 100% responsable maintenant de mon portefeuille. Donc, si ça va bien, ben bravo à Sylvain. Puis, si ça va pas bien, ben c'est de ta faute, OK? Je peux plus blâmer... je peux pas blâmer la banque, je peux pas blâmer mon conseiller financier, donc je suis 100% responsable et j'aime ça en fait parce que je me dis, il y a personne qui va mieux me servir que moi-même en fait, qui va faire plus attention à mes choses en fait. Alors voilà, fait que bref, quand on veut devenir la personne qu'on veut en fait, donc faut toujours regarder qui peut nous aider en fait, comme tu le dis. C'est pas ou là que... Donc, c'est pas la chance, en fait, c'est vraiment 90% de tes choix qui sont intentionnels, donc d'aller vers ces personnes-là, donc de poser les bonnes questions, puis ensuite de mettre en pratique, en fait, pour pouvoir avoir les résultats que tu désires, en fait. Alors, Jean-Philippe, regardez qui vous voulez devenir et allez-y.
Yes! Merci, Sylvain. Donc, vous comprenez, c'est vraiment l'intention. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, tu dois avoir cette forme de vision-là. Tu sais, Sylvain, quand il dit « oui, je veux devenir indépendant dans mes investissements, je veux être autonome », donc, il y avait une forme de vision. Est-ce qu'elle était aussi claire que ce qu'il a aujourd'hui? Probablement pas à l'époque, mais il y avait ce désir-là, cette intention-là de clarifier la vision, de voir jusqu'à où est-ce que ça pourrait le mener. Et c'est ce qui a fait en sorte aussi qu'il a pu bénéficier des conseils de son ami. Donc, c'est comme une joute à deux. Donc, c'est comme une balle, tu sais, une balle de tennis, là, genre, je veux dire, ça revient, ça part, ça revient, ça part. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on veut rencontrer des gens de manière intentionnelle pour qu'ils puissent nous aider à grandir notre vision, mais au départ, il faut que tu aies la vision. Donc, des fois, on se pose, c'est lequel qui vient avant? Mais la vision vient avant, OK? Parce que si tu n'en as pas, tu ne pourras pas bénéficier des conseils de cette personne-là. Les deux autres éléments, en fait, qu'on veut couvrir rapidement avec vous autres aujourd'hui, on les a déjà couverts, en fait, dans des podcasts précédents. Fait qu'on veut vous faire un rappel parce que ça, c'est des éléments qui vont vous aider à agrandir la vision et à faire en sorte que vous allez voir plus et voir avant. Donc, l'élément numéro 4, c'est de comprendre, en fait, que à poser des questions va vous aider à agrandir votre vision et la vision des gens. Donc, John Maxwell, il a dit dans une entrevue, il s'était fait poser, c'est quoi la différence entre toi à 30 ans et toi aujourd'hui? Il dit, à 30 ans, je donnais des directions. Aujourd'hui, je pose des questions. Parce que oui, les questions, c'est ce qui va vous aider à ouvrir les portes des opportunités. Donc, si je vous ramène, il y a de cela quelques podcasts, j'avais couvert en fait plusieurs questions à poser lors d'une entrevue. Donc, exemple, lorsque vous faites vos rencontres d'avancement ou que vous êtes un leader, vous êtes en train de développer votre équipe, on appelle ça nous les rencontres de 20-80. L'objectif est de développer le leadership des gens, mais en réalité, on travaille avec les bonnes personnes, les gens qui sont engagés. Mais ce qu'on veut savoir, c'est que oui, au départ, on a des gens engagés, mais est-ce que c'est des gens qui vont fitter avec nos valeurs, nos principes, nos priorités et notre vision? Donc, pour ce faire, j'avais couvert, en fait, plusieurs questions à poser. Donc, on avait des questions, en fait, sur c'est quoi la clarté de leur objectif et comment est-ce qu'ils progressent. Des questions sur la communication, des questions sur leur apprentissage, des questions, en fait, de manière générale sur leur satisfaction de notre interaction. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces questions-là vont vous aider à établir si les gens, OK, sont en accord et sont alignés avec la vision où est-ce que vous voulez aller pour savoir est-ce qu'on travaille main dans la main? Est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que, un, je t'aide à agrandir ta vision et parce que je t'aide à agrandir ta vision, moi aussi, en fait, tu m'aides. Donc, c'est une relation gagnant-gagnant pour que eux, à leur tour, par la suite, ils puissent développer leur propre vision et effectuer le même travail. Donc, vous retournerez réécouter les podcasts pour avoir accès à toutes les questions que l'on a couvertes. Et le dernier élément, bien évidemment, pour pouvoir agrandir votre vision, il faut être intentionnel chaque jour de pouvoir grandir. Qu'est-ce qui fait que je grandis au niveau du leadership? C'est que chaque jour, je lis sur le leadership. Qu'est-ce qui fait que je grandis au niveau de la vente? C'est que chaque jour, je fais quelque chose relié à la vente. Qu'est-ce qui fait que je deviens un investisseur immobilier? C'est que chaque jour, je veux en apprendre un peu plus sur devenir un investisseur immobilier. Et c'est prouvé qu'une personne qui prend une heure de son temps par jour, une heure, pas plus, pendant 5 ans, va devenir un expert dans son domaine. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que souvent les gens disent 5 ans, mon Dieu, c'est tellement à grande échelle, c'est tellement loin. Donc, en général, les gens durant les premières années, les 2 premières années, vont dire combien de temps ça va me prendre. Mais lorsque tu vas avoir mis le pied dans le fait de te développer, dans le fait d'apprendre, dans le fait d'écouter des podcasts, assister à des rencontres, assister à des séminaires et assister à des formations, discuter avec des mentors, discuter avec des guides, c'est que tu vas te mettre à vivre et expérimenter ce développement-là et à partir de ce moment-là, où est-ce que tu vas avoir ce qu'on appelle comme le breakthrough, donc que tu vas avoir un mindset shift, donc ton mindset, il va complètement changer. C'est là que la question, au lieu d'être « combien de temps ça va me prendre », tu vas changer ta question, puis ta question va devenir « jusqu'à où est-ce que je peux me rendre ?» Donc, tu vas vivre, c'est l'expérience qui va aussi t'aider à développer ta vision. Donc oui, au départ, on a une vision. Elle est souvent petite, on a des objectifs, mais on peut pas la repousser si on ne fait pas des actions. Donc, c'est uniquement en faisant des actions, en lisant, en réfléchissant. Donc, comme le processus, tester, échouer, apprendre, améliorer, remettre en action, c'est ce qui fait que tu vas pouvoir repousser le plafond de ta vision chaque fois et un jour te dire jusqu'à où est-ce que je peux la repousser pour pouvoir atteindre cette vision-là. Donc oui, le fait de se former de manière intentionnelle à vouloir se développer dans un domaine va nécessairement vous aider à voir plus et à voir avant parce que vous travaillez intentionnellement à grandir votre vision. Donc, c'est les éléments qu'on voulait couvrir avec vous aujourd'hui. À partir de la semaine prochaine, on va changer de section dans le chapitre. On va parler en fait de comment est-ce que vous pouvez en fait posséder votre vision, OK? Comment s'assurer qu'elle soit vôtre et pourquoi c'est important que chaque personne développe sa propre vision et non que ce soit uniquement la vision de quelqu'un d'autre qu'on veuille accomplir. Donc, dès demain matin, on se revoit à 8h30. Je vais être avec Maria et Marie-Pierre et ça va être notre dernier podcast sur le livre « Hello Fears » de Michelle Poehler. À partir de la semaine prochaine, on va être dans le livre « Atomic Habits ». En français, c'est un petit peu... un un peu peut tout changer ou quelque chose comme ça. Bref, cherchez Atomic Habit, là, puis vous allez le trouver, puis vous allez pouvoir suivre le podcast avec nous autres. Fait que sur ça, on se dit à demain matin, 8h30. Bye tout le monde!